VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui. VOA Afrique, édition du 28 février 2022. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia.
Et Nathalie Barge.
Pour commencer, les titres d'une actualité toujours dominée par l'invasion russe de l'Ukraine.
Le président Vladimir Poutine annonce la mise en alerte des forces de dissuasion nucléaire de son pays.
Ouverture ce matin au Burkina Faso des assises nationales avec l'adoption des textes régissant la transition.
En Guinée, arrivée des représentants de l'ONU et de la CEDEAO à Conakry pour rencontrer la junte au pouvoir.
Le dialogue entre la junte et les rebelles tchadiens à Doha a été légèrement retardé et remaniement à N'Djamena du gouvernement de transition.
Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Onkpatine.
Pour l'instant, le journal.
Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe qui peut comprendre une composante nucléaire. En réaction, les États-Unis ont accusé M. Poutine de fabriquer des menaces qui n'existent pas et dénoncé une escalade inacceptable.
C'est une conduite irresponsable, a renchéri l'OTAN, tandis que l'Ukraine a réaffirmé que malgré cette nouvelle menace, elle ne capitulera pas. Pour l'Allemagne, c'est la preuve que l'invasion ne se passe pas aussi bien qu'escompté. Washington a conseillé hier à ses citoyens d'envisager de quitter immédiatement la Russie face aux annulations de vols et aux fermetures d'espaces aériens annoncées par l'Union européenne et d'autres pays à l'encontre des avions russes. Le président américain Joe Biden doit s'entretenir aujourd'hui en conférence téléphonique avec ses alliés et partenaires pour discuter des développements de l'attaque russe en Ukraine et coordonner une réponse unie, a déclaré la Maison-Blanche.
La présidence de l'Ukraine a par ailleurs indiqué avoir accepté des pourparlers avec la Russie à la frontière avec le Bélarus, près de Tchernobyl. Une décision faisant suite à une médiation du président bélarusse Alexandre Loukachenko. Le Kremlin avait auparavant proposé comme lieu de rencontre Gomel au Bélarus, mais le président ukrainien avait refusé, le Bélarus servant de base arrière à l'invasion de son pays.
Sur le terrain, la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, dans le nord-est, est sous le contrôle total des forces ukrainiennes, a indiqué hier le gouverneur régional. Quelques heures après avoir annoncé une percée russe et des combats de rue.
Sur la situation que vivent les habitants de Kiev, la capitale ukrainienne, Arzuma Compaoré a pu joindre hier par téléphone une étudiante ivoirienne.
En fait, ici, disons que c'est la panique totale parce que nous sommes à la capitale, à Kiev. Du coup, lorsqu'ils font le bombardement, tout et tout, c'est plus entendu ici. Parce que nous, on n'est pas trop loin. Nous sommes à 40 à 30 kilomètres du camp. Donc, les bombardements, tout et tout, c'est entendu. C'est-à-dire que les sécurités totales, quoi. Donc on ne prend pas le risque de rester dans notre appartement, on préfère en fait venir se réfugier dans notre au sous-sol en fait. En bas de chaque appartement, c'est-à-dire en bas des immeubles. Bon, c'est pas tous les immeubles en fait, mais en bas des immeubles, normalement il y a un sous-sol. C'est là que on se refuge. Parce qu'on ne sait jamais. Pour ne pas que lorsqu'ils sont prêts à se bombarder, pour ne pas qu'on prenne les pots cassés, vu que les lieux d'habitation ne sont vraiment pas en sécurité.
C'était une étudiante ivoirienne jointe à Kiev en Ukraine.
L'armée russe a pour sa part reconnu pour la première fois hier avoir recensé des morts et des blessés dans son invasion de l'Ukraine sans donner de chiffres. D'autre part, selon les Nations Unies et les autorités polonaises, quelques 368 000 réfugiés ont fui les combats en Ukraine depuis le déclenchement de l'invasion russe jeudi, dont plus de la moitié sont entrés en Pologne et leur nombre continue à augmenter. La France portera ce lundi, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution sur l'aide humanitaire à l'Ukraine.
Le Conseil de sécurité a adopté hier, à la demande des Occidentaux, une résolution convoquant ce lundi, en session extraordinaire d'urgence, l'Assemblée générale des Nations unies pour que ses membres se prononcent sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les détails avec Arzouma Compaoré.
La résolution portée par les États-Unis et l'Albanie a été adoptée par 11 pays. La Russie a voté contre. Les Émirats arabes unis, la Chine et l'Inde se sont abstenus. Aucun veto n'était possible pour cette saisine en vertu du règlement onusien en vigueur. Basé sur une procédure établie en 1950, intitulée « L'Union pour le maintien de la paix », cette saisie, qui représente un revers majeur pour la Russie sur la scène diplomatique internationale, ne peut pas faire l'objet d'un veto d'un des 5 membres permanent du Conseil de sécurité, parmi lesquels figure la Russie. Vendredi, Moscou avait mis son veto à une résolution des États-Unis et de l'Albanie condamnant l'invasion russe et réclamant le retrait immédiat de ses troupes d'Ukraine. Cette saisie exceptionnelle de l'Assemblée générale, extrêmement rare dans l'histoire de l'ONU, va permettre aux 193 membres de l'ONU de se positionner au regard du conflit entre partisans de la démocratie et de la souveraineté de l'Ukraine et soutien de Moscou. Dimanche, la position sur cette résolution de la Russie, qui peut à nouveau utiliser son droit de veto, n'était pas connue.
L'Union européenne va débloquer 450 millions d'euros pour acheter des armes destinées aux forces armées ukrainiennes et certains pays sont disposés à fournir des avions de combat. Le Canada va envoyer de l'équipement militaire de protection pour 25 millions de dollars, tels que des casques et des gilets pare-balles, mais a exclu à nouveau tout déploiement de troupes.
Et la compagnie aérienne russe Aeroflot a annoncé suspendre à partir de ce lundi tous ses vols vers l'Europe après la décision de l'Union européenne de fermer l'ensemble de son espace aérien à tous les avions russes.
Les ministres européens des Affaires étrangères se sont entendus hier en accord avec les puissances du G7 pour bloquer les transactions de la Banque centrale russe. Le rouble russe a plongé de près de 30% par rapport au dollar ce lundi après que les puissances internationales ont imposé de nouvelles sanctions à Moscou. Et le prix du baril de brut West Texas Intermediate a bondi de plus de 5% dans les échanges matinaux.
Par ailleurs, la FIFA a imposé à la Russie de jouer ses matchs de football sous bannière neutre et de disputer ses rencontres à domicile hors de son territoire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, c'est aujourd'hui qu'on doit désigner le président de la transition, une désignation qui se fera à l'issue des assises nationales. C'est ce qu'a annoncé ce week-end, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui a pris le pouvoir dans ce pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Les assises nationales s'ouvrent ce matin à Ouagadougou avec l'adoption des textes régissant la transition. Selon le lieutenant-colonel Daba Naon du MPSA, les assises vont regrouper toutes les forces vives de la nation. Il sera question de l'examen et de l'adoption de la charte. L'agenda est la charte des valeurs de la transition, a-t-il déclaré, précisant que toutes les propositions ont été prises en compte. Selon lui, les assises s'inscrivent dans la logique de prendre en compte les aspirations du peuple burkinabé, précisant que la durée de la transition sera définie lors de ces assises nationales avec l'ensemble des forces vives de la nation. Nous allons déterminer de manière responsable la durée de la transition, a-t-il affirmé. Dans l'après-midi, il est prévu l'investiture solennelle du président de la transition. Dimanche, un projet de charte non authentifié a circulé sur les réseaux sociaux, prévoyant une transition de 30 mois, un gouvernement de 20 membres, dont un premier ministre civil, et une assemblée de 51 membres. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Des émissaires des Nations Unies et de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sont arrivés en Guinée hier pour rencontrer les responsables de la junte ayant pris le pouvoir par un coup d'État il y a 5 mois.
Et au Tchad, à 2 mois et quelques jours du dialogue national inclusif, le chef de la junte au pouvoir, Mahamad Idriss Déby, a remanié son équipe gouvernementale. On note 11 nouveaux ministres et le départ de quelques poids lourds de la première équipe gouvernementale de la transition, mise en place le 2 mai et dirigée par Albert Payimi Padake. Notre correspondant Anjamena André Kodmajingar fait le point.
Au ministère de la Sécurité publique, le général Idriss Dokoni Adeker remplace son compagnon d'armes, Souleymane Abakar Adam. Il aura à gérer les contestations de la rue suite au récurrent conflit intercommunautaire qui se généralise à travers le pays, mais aussi d'une partie de la population qui conteste encore la légitimité du pouvoir militaire. Mahamoud Ali fera sa première expérience au département de la jeunesse et des sports. La grève des syndicats du dit département pour protester contre des nominations fantaisistes est un dossier brûlant qui l'attend. Après ses déboires judiciaires pour plusieurs chefs d'accusation, notamment utilisation illicite des biens de l'État, Gerassem Le Bemadiel est ramené au ministère du pétrole. Au département de l'enseignement supérieur, Lydie Biasomda cède son fauteuil à Ali Ouedo. Son départ, selon les observateurs, serait lié à son adhésion à un regroupement des partis politiques de l'opposition qui sont favorables pour un État fédéral. C'est un gouvernement de 26 portefeuilles ministériels et 8 secrétariats d'État qui va conduire la transition jusqu'au dialogue national inclusif fixé pour le 10 mai, alors que les autorités de N'Djamena viennent de confirmer le report du pré-dialogue avec les politico-militaires prévu pour ce 27 février à Doha au Qatar, sans annoncer une nouvelle date. André Kodouma Dingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On démarre avec du basketball, fin de la deuxième phase des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde en zone Afrique à Dakar.
Oui, et on connaît les 6 équipes qualifiées pour la phase finale qui aura lieu en août prochain dans le groupe T. Après son faux pas contre la RDC, le Sénégal s'est repris en dominant le Kenya 100-55, validant du coup son ticket pour la suite de ses éliminatoires, tout comme l'Égypte et la RDC dans la poule B. Le Soudan du Sud a été impressionnant en signant sa troisième victoire en autant de matchs. La dernière, 74-68 face au Cameroun. Décevant avec 2 défaites et 1 victoire, les Camerounais seront bien au dernier tout après la victoire de la Tunisie sur le Rwanda 66-51.
Cyclisme avec le Tour du Rwanda et c'est Nathanael Tesfatsion qui remporte cette 14e édition.
Tout à fait. Comme en 2020, l'Érythréen finit en tête du classement général et le maillot jaune sur les épaules. Tesfatsion remporte donc pour la deuxième fois de son histoire le Tour du Rwanda et cette fois au terme de la dernière étape qui s'est achevée hier dimanche dans les rues de Kigali par la victoire de Moïse Mugisha. Le Rwandais devance les Français Sandy Dujardin et Alexandre Jeunier. À noter que Kigali accueillera en 2025 les mondiaux sur route.
Football à présent avec la troisième journée de la phase de poule des interclubs de la CAF.
Oui, et en Ligue des Champions, le tenant du titre Al Ahly chute à domicile, battu 1-0 par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui confortent leur première place dans ce groupe A. Dans le groupe B, après avoir battu 1-0 le Oroya de Conakry, le Raja de Casablanca signe sa troisième victoire de rang. Par contre, les Guinéens enregistrent leur troisième revers et se rapprochent plus de la sortie. Contre-performance aussi pour le Zamalek du Caire, troisième du groupe D, battu 3-1 par le Wydad de Casablanca. Les Marocains sont deuxième du groupe avec 6 points, juste derrière le Petro Atlético de Luanda. Et puis, dans la poule C, l'Espérance de Tunis a lâché ses premiers points après avoir concédé le nul à domicile 0-0 face à l'Étoile du Sahel.
À l'échelon intérieur, en Coupe de la Confédération, on jouait aussi la troisième journée des matchs de poule.
Et dans la poule A, le sans-faute se poursuit pour les Égyptiens de Pyramide. 9 points après avoir battu 1-0 les Tunisiens de Sfax. Les Libyens d'Ali Tripoli suivent avec 6 points suite à leur succès 2-0 face aux Zambiens de Zaraco. Dans la poule B, ce sont les Sud-Africains d'Orlando Pirates qui mènent la danse avec 6 points après leur victoire spectaculaire en Eswatini 6-2 devant le Royal Léopard. Les Libyens d'Al Ittihad et les Algériens de la JS Saoura partagent la seconde place avec 4 points chacun.
Dans le groupe C, le TP Mazembe s'est relancé.
Oui, après sa défaite en Égypte lors de la journée précédente, le club de Lubumbashi a réalisé le service minimum à domicile face aux Camerounais du Coton Sport de Garoua. Un succès qui lui permet de prendre les commandes du groupe avec 6 points, 2 de plus que les Congolais de l'AS Otoho Doho, vainqueur 1-0 aussi des Égyptiens d'Al Masri. Enfin, dans le groupe D, ce sont les Marocains de Berkane qui ont pris la tête grâce à leur victoire sur Simba de la Tanzanie 2-0. À la deuxième place, les Nigériens de la Gendarmerie Nationale qui ont réalisé l'espoir en s'imposant avec la manière 2-0 face à la CED d'Abidjan. Les Ivoiriens sont bons derniers au classement.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau en votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur l'Ukraine, comment l'invasion de ce pays par la Russie est-elle perçue dans certaines nations d'Afrique? Commençons par la République centrafricaine, alliée de Moscou. Beaucoup de centrafricains pensent que le monde n'a pas besoin d'une guerre et souhaitent plutôt que la diplomatie prenne le dessus pour mettre un terme à cette crise. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Officiellement, Bangui n'a fait de commentaires sur la guerre en Ukraine. Les autorités ont opté pour le silence face à l'offensive de leur allié russe sur le sol ukrainien. Les avis des Banguissois divergent.
Cette situation est grave. Imaginez-vous, le prix de la farine, par exemple, va changer parce que le gros producteur mondial de blé, c'est la Russie.
Ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et la Ukraine est déplorable. Je souhaiterais qu'on aille vers le dialogue que d'aller vers la guerre.
La méthode de Poutine n'est pas bonne. Il faudrait vraiment le reconnaître. Peut-être qu'il a ses raisons. Quand il y a le feu, il faut verser de l'eau pour atténuer ce feu. Donc il faut parler d'une manière pacifique entre ces deux pays afin d'atténuer un peu leurs tensions pour passer au dialogue, parce qu'il n'y a rien sans le dialogue.
Pour Charles Armel Douban, ancien ambassadeur de la République centrafricaine à l'ONU et ancien ministre des Affaires étrangères, ce conflit, bien que éloigné, pourrait avoir des répercussions en Afrique et singulièrement en République centrafricaine.
Il est vrai que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, il est vrai que l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne, mais ce pays stratégiquement est situé aux portes de l'Europe, à la limite de l'OTAN, et aujourd'hui c'est beaucoup plus une préoccupation occidentale, mais les conséquences arrive en Centrafrique parce que vous savez, depuis quelques jours, le prix du gaz, le prix du pétrole a flambé. Nous ne sommes pas producteurs, nous sommes grands consommateurs. À terme, il faut voir les conséquences sur le coût, le renchérissement des prix de tout ce que nous importons.
Jean-Fernand Kouina, journaliste, redoute les conséquences de cette guerre sur les pays sous-développés. Pour lui, la violence doit faire place à la diplomatie.
Il existe des mécanismes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons tous vu les limites de l'SDN. La société des nations. Et c'est au regard de ces limites que le monde a inventé l'ONU. Et c'est l'occasion à jamais nous interpellant l'ONU à être fertile en matière d'imagination de paix, de manière à ce que on rassure aujourd'hui la Russie que jamais l'OTAN ne sera à sa porte. C'est le moment à jamais de dire à l'OTAN de trouver un consensus, puisque ce sont les puissances nucléaires qui vont être dos à dos. C'est pas possible.
De son côté, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme exhorte la communauté internationale à éviter la guerre. Son président, Joseph Bindoumi, demande aux grandes puissances de tout faire pour promouvoir la voie diplomatique et le dialogue.
Depuis la dernière guerre mondiale, celle de 39-45, nous n'avons pas eu autant de menaces à un troisième conflit mondial qu'à l'heure actuelle. Or, la guerre de 39-45, c'est tellement été la plus grande guerre, mais tous les pays n'avaient pas les capacités de destruction massive que l'on a aujourd'hui, et si des puissances rentrent aujourd'hui en guerre. Je pense à la Russie, je pense aux États-Unis, je pense aux autres puissances. La planète Terre va disparaître.
La République centrafricaine et la Russie entretiennent des relations étroites depuis 2017. Des instructeurs russes forment les militaires centrafricains et les appuient dans leur lutte contre les groupes armés qui contrôlaient une bonne partie du pays. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Et au Burkina Faso, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est aussi très commentée. Les avis burkinabés sont variés et divers, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
Même à des milliers de kilomètres, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est aussi très suivie à Ouagadougou. Mais les avis sont partagés. Edmond Djigim Koudré, enseignant et journaliste.
Ce n'est pas un problème très grave, même si cela peut occasionner une troisième guerre mondiale. Ça, c'est André Griff. Si l'Ukraine se détache de la Russie, c'est pour dire que les Européens, si vous voulez, les ennemis de la Russie, là, vont commencer à encercler la Russie et le contrôler.
Omar Zombré est journaliste à la télévision nationale.
Poutine ne peut pas obliger son voisin, à qui il a reconnu l'indépendance, qui est reconnu par les Nations Unies, de ne pas pouvoir être libre de choisir ses amis. L'Ukraine veut être dans l'OTAN. Je pense que si Poutine a accepté l'indépendance de l'Ukraine, si la Russie a accepté l'indépendance de l'Ukraine, c'est de laisser l'Ukraine choisir ses alliés.
La Russie, c'est pas le Burkina, c'est pas le Mali. La Russie, c'est le plus grand pays au monde. Les États-Unis, c'est la moitié de la Russie.
Mélégué Traoré a été ambassadeur du Burkina en Russie. Il intervenait sur la question sur Radio Omega, une radio locale.
Des pays comme ça sont sensibles à leurs frontières, sur la question de leurs frontières. Ils n'en vont pas trop. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Il y a la menace, ça veut dire que vous pouvez venir disposer des missiles sur la frontière russe. C'est difficile à accepter pour un pays. Est-ce que les États-Unis peuvent accepter ça? On a vu en octobre 1962, il y a eu exactement la même chose. Les Russes, les Soviétiques à l'époque, à la demande de Cuba, ont installé à Cuba des missiles. C'est 100 km de la côte, les Américains ont dit non.
En attendant, les combats de Russes se poursuivent à Kiev, la capitale ukrainienne, et le Burkina, lui, retourne à ses affaires. Il attend aujourd'hui la désignation d'un président de la transition qui fera face aux défis sécuritaires. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
L'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes ne laisse pas non plus indifférents les Maliens. Des réactions recueillies par notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Dans les rues de la capitale malienne, le sujet dominant est depuis quelques jours l'attaque de l'Ukraine par les forces armées russes. Sur la toile, il y a une véritable confrontation, comme une bataille rangée mais virtuelle, entre ceux qui soutiennent le président russe Vladimir Poutine et ceux qui estiment qu'il abuse de son pouvoir contre un État qui ne fait pas le poids et qui doit jurer de sa liberté de choisir ses partenaires. Kurutu Mudia est une militante du parti Force démocratique pour la prospérité.
L'Ukraine est un État souverain qui a droit d'adhérer à l'organisation qu'il veut. Moi, je pense que la Russie rêve de son impérialisme d'antan. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, là, au moment où il y avait la Fédération russe de l'URSS, la Russie pense toujours que les anciens pays de cette fédération lui appartiennent et c'est à lui de décider à leur place. Sinon, on a eu des présidents pro-russes en Ukraine, il n'y a jamais eu de problème. Aujourd'hui qu'on a un président pro-européen, c'est là où on parle de tous les maux. C'est un État souverain, il a le droit de choisir les partenaires qu'il veut.
Si depuis 72 heures, les voies d'une négociation entre les deux pays se dessinent, il est urgent, selon Mahaman Mahalmadan, ressortissant de Tombouctou, d'aller très vite pour faire cesser les hostilités et épargner la vie des civils.
Mon point de vue par rapport à ça, je ne trouve pas ça pour une bonne chose parce que je sens que c'est une troisième guerre mondiale qui est menacée comme ça. Voilà. L'Ukraine en tant qu'une partie de la Russie dans l'ancienneté, aujourd'hui je pense qu'ils doivent primer le dialogue afin de pouvoir gérer toutes les situations qui se trouvent entre les deux nations au lieu de partir à l'offensif. À mon avis, je pense qu'ils doivent vraiment favoriser les dialogues afin qu'ils puissent trouver un terrain d'entente.
L'OTAN et l'Union européenne, depuis le début de la crise, ont pris de nombreuses sanctions contre la Russie. Mahaman Baba, journaliste, estime qu'il faut plus d'implication de la communauté internationale.
Moi, en tant que Malien, je pense que les organisations internationales doivent vraiment s'engager, doivent prendre des mesures pour mettre fin à cette situation. Vous savez, actuellement là où on est, le monde n'a pas besoin de ce genre de guerre.
Le droit de choisir sa gouvernance et ses partenaires, c'est ce même droit dont veulent jouir beaucoup de Maliens qui font aujourd'hui le parallèle entre ce que vit le Mali et ce qui se passe en Ukraine. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
C'est parti pour la deuxième saison de la Basketball Africa League, l'événement basketball de l'année. La Voix de l'Amérique, en partenariat avec la balle, vous fait découvrir l'événement phare du basket africain. 12 clubs en compétition pour succéder aux Amalek, vainqueurs de la première édition. 38 matchs à disputer dans 3 pays, le Sénégal, l'Égypte et le Rwanda. Retrouvez les matchs en direct, les avant et après matchs, ainsi que des résumés quotidiens sur les ondes de la VOA et sur nos stations partenaires. La Basketball Africa League sur la Voix de l'Amérique, que le meilleur gagne.
Maintenant, pour changer de sujet, au Sénégal, le président Macky Sall a décidé la semaine dernière de baisser les prix des denrées de première nécessité, dont l'huile, le riz brisé et le sucre. Les producteurs de riz local vont aussi bénéficier d'une subvention. Des décisions saluées par les Sénégalais qui attendent quand même plus, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Une baisse de 100 francs CFA sur le litre d'huile, de 25 francs CFA pour les kilos de sucre et de riz brisé, telles sont les principales décisions prises par le chef de l'État pour, dit-il, soulager les ménages éprouvés par la conjoncture. Albouri Diop espère aussi une baisse des prix de l'eau et de l'électricité.
C'est un grand pas que le chef de l'État a fait envers la population. Plus précisément, ceux qui sont les plus démunis. Car on sait que la vie, elle est très chère ici au Sénégal. Donc, baisser les prix des denrées de première nécessité, c'est un grand pas pour tous. En espérant que le chef de l'État va continuer sur cette lancée, pourquoi pas baisser l'eau et l'électricité ou encore plus. C'est possible, tout est possible. C'est juste une question de volonté et de politique générale. Et on espère que ça va continuer ainsi.
Le président Macky Sall est en train de prendre une nouvelle orientation politique en surfant sur la vague positive enclenchée par le succès des Lions à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'avis de Malick Sow qui salue cet acte posé par le chef de l'État.
Je crois qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, il essaie de séduire la population sénégalaise. Il essaie de négocier psychologiquement. On a vu le joyau, ce bijou, le stade qui a été inauguré récemment. Donc, c'est aussi une politique de jeunesse. N'oublie pas que 75% de la population ont moins de 35 ans au Sénégal. Donc, je pense qu'actuellement, il est en train de revoir sa stratégie politique, selon moi.
L'État pourra-t-il supporter durablement les 50 milliards par an que cette baisse des prix va engendrer? C'est la question que se pose Mbaïsène, qui redoute l'impact négatif du conflit ukrainien sur les marchés mondiaux.
La baisse des denrées alimentaires est une nécessité, mais je doute de la possibilité de cette période où les bourses sont entrées en chute due à la crise en Ukraine. Tous les spécialistes savent que c'est la consommation locale qui développe le secteur agricole. C'est normal d'augmenter le prix du riz de la vallée. Ça va permettre à nos producteurs d'être plus compétitifs, mais aussi d'être plus à l'aise face à leur production.
Cette baisse du prix des denrées de première nécessité est saluée par beaucoup de Sénégalais, mais un doute subsiste chez les citoyens quant à la capacité des autorités à résorber l'impact de 50 milliards de francs CFA sur le budget de l'État. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Snapchat,
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sédoudia et Nathalie Barge. À la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi et à la console, Karl Starling. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.